Tapping d'appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à vous pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. C'est vendredi, c'est donc la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir au 33 9 693 693 70. Également par mail, appel au pluriel appel@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter ou le compte Facebook de l'émission sont là pour ça. On va sans plus attendre partir pour le standard. On nous attend Epaphras qui est à N'Djamena. Bonjour Epaphras.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors nous avons débattu cette semaine du cinquième mandat d'Idriss Déby, il a été investi très officiellement cette semaine. Vous, Epaphras, vous n'êtes pas du tout convaincu par cette longévité du chef de l'État tchadien?
Pas du tout Nicolas, d'abord il faut se dire que les Tchadiens vont avoir en mémoire le 8 août passé quelques chefs d'État africains, une dizaine, et le ministre de la Défense française était venu au Tchad pour enterrer la démocratie, selon le terme que je peux utiliser comme ça, parce que tout le monde sait très bien que Idriss Déby est contesté depuis 26 ans de règne. Idriss Déby n'a jamais gagné une élection au Tchad. La preuve, c'est que la dernière élection qui vient d'avoir lieu, c'est-à-dire celle du 10 avril passé, Idriss Déby a seulement récolté 10%. C'est cette vérité que la communauté internationale n'en a pas.
Epaphras, les résultats officiels font état d'une victoire au premier tour avec plus de 60% des voix. On n'a pas exactement les mêmes chiffres, vous et moi.
On n'est pas étonné que la CENI, qui est totalement au service du parti au pouvoir ou bien de Déby, et même le conseil constitutionnel formé quasiment des militants du MPS puisse nous donner un résultat contraire à ce que je dis. Donc la commission technique de compilation des résultats mise en place justement par les candidats de l'opposition qui ont fiablement travaillé sur les procès-verbaux en provenance de 9 régions qui font déjà 65% de l'électorat tchadien prouve que Idriss Déby n'a que 10% de voix. Alors, le gagnant de cette élection, si on doit l'avoir, c'est le candidat Kebzabo qui est de l'opposition. Malgré tout, il n'y a pas eu un seul candidat qui est donc passé au premier tour. Idriss Déby devait même être en quatrième position là-bas, par conséquent, exclu déjà de la course au deuxième tour. Passé maintenant, on a utilisé l'armée, on a utilisé l'administration, on a utilisé les finances publiques pour faire régner Idriss Déby. Maintenant, les chefs d'État qui ont fait le déplacement de N'Djamena...
14 chefs d'État, oui.
Nous disons qu'en fait, ils sont venus introniser, investir donc le président de la communauté internationale ou le président de l'Union africaine, mais en tout cas pas le président du Tchad parce que le peuple tchadien n'a pas réussi Idriss Déby. Alors, ce que les jeunes attendent, c'est qu'il y ait un dialogue inclusif. Dès maintenant, au cas échéant, les jeunes sont déjà engagés à suivre l'opposition démocratique et la société civile responsable qui, nous osons croire, vont appeler à une désobéissance civile parce que Idriss Déby n'est pas le président actuellement du peuple tchadien.
Et pas phrase très rapidement, vous voulez dire que vous sentez un mouvement naître comme il y a eu au Burkina Faso avec le Ballet Citoyen et qui a conduit au départ de Blaise Compaoré? Vous dites que c'est à peu près la même situation chez vous au Tchad?
Absolument, monsieur Nicolas, parce que la sortie massive des jeunes sous la pluie, d'ailleurs le 6 août passé pour manifester contre l'investiture du tyran Déby. Ils étaient sortis nombreux pour écouter le discours des opposants qui les ont conviés à un terrain neutre. Si Idriss Déby est réellement élu, pourquoi pouvait-il encore garnir N'Djamena des militaires, de béret rouge, bleu, noir, tout cela?
C'est vrai que les manifestations ont été très encadrées, elles ont même été interdites. On va rester à N'Djamena et rejoindre Eladj. Bonjour Eladj.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors vous voulez répondre à Epaphras parce que vous dites tout de même que la majorité des Tchadiens a voté pour le programme d'Idriss Déby Itno.
Absolument. En effet, pour moi, le débat sur la réélection du président Déby est clos, d'autant plus que la majorité des Tchadiens ont approuvé le programme politique présenté par cet homme. Donc, l'opposition n'a d'autre choix que de s'incliner devant le choix du peuple tchadien et la décision du Conseil constitutionnel.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations, comme le faisait remarquer Epafras, ces manifestations qui ont lieu le week-end dernier et qui ont été, qui n'ont pas été autorisées? On parle même d'un manifestant qui a été tué par balle. Là, pour le coup, il n'y a pas de démonstration de démocratie avec ces manifestations interdites.
Je suis heureux de constater que à chaque fois que les jeunes veulent manifester, le gouvernement, pour des motifs que lui seul comprend, prend des décisions, des arrêtés pour interdire ces manifestations. D'autant plus que la Constitution tchadienne même autorise le rassemblement et le droit de manifester. J'aimerais déjà préciser que la loi qui encadre les manifestations date des années 1962, qui pour moi ne cadre pas aujourd'hui avec les réalités sociopolitiques du Tchad. En temps, le Tchad était un État fermé. Aujourd'hui, il y a le multipartisme. Et donc, on doit autoriser une voix d'opposition à s'exprimer.
Le multipartisme que l'on peut mettre au moins au crédit d'Idriss Déby, puisque c'est sous ses présidences que le multipartisme a pu voir le jour au Tchad. Merci beaucoup, Eladj, de nous avoir appelés. On va rejoindre Josué qui est à Berlin. Bonjour.
Oui, bonjour Nicolas, c'est Josué qui appelle de Berlin.
Bienvenue, vous êtes en direct avec nous et vous voulez nous parler du Forum Social Mondial au Canada. Alors pour les auditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant, c'est un forum altermondialiste pour dénoncer les excès du capitalisme. En gros, pour contrer le sommet de Davos qui se déroule en Suisse avec les plus riches du monde.
Oui. Et voilà pour moi, ou bien disons pour nous les altermondialistes convaincus, d'autant plus que je suis cofondateur et membre d'Attaque Allemagne, l'esprit de 2001 à Porto Alegre, au Brésil, où le premier forum social mondial avait eu lieu, est trahi, et ceci depuis 2013 lors du forum social mondial de Tunis.
Vous dites que c'est trahi parce que là, ça se passe au Canada, dans un pays riche, membre du G7, un pays industrialisé, c'est ça? C'est la destination qui vous gêne?
Ce n'est pas seulement la destination qui me gêne, mais c'est surtout le fait que le Canada n'ait pas accordé des visas aux délégués des associations altermondialistes africaines et latino-américaine, pour des raisons que seul le pays de G7, entre autres les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, savent et connaissent, parce que ce n'est pas la première fois que ces gens-là nous jouent un coup. Je me rappelle, il y a quelques années, 3-4 ans, lors de l'Académie d'été d'Attaque Allemagne, nous avions invité 3 syndicalistes marocains. L'Allemagne, malgré une invitation officielle signée par certaines éminences grises de l'altermondialisme allemand, avait
refusé les visas.
Refusé de leur donner le visa.
Alors après, il y a peut-être des raisons sur plus personnelles pour les gens qui ont demandé les visas, des raisons économiques peut-être.
Mais non, c'est que nous sommes tous soupçonnés, aussi longtemps que nous sommes domiciliés dans nos pays, dans nos continents respectifs, d'être de potentiels exilés économiques, si pas exilés politiques. Et ça, vraiment, c'est ce que je trouve inadmissible, parce que nous, les Africains, bien dans nos pays, on n'a jamais considéré les Français, les Belges, les Allemands, qui souvent ont déjà été des mercenaires dans nos pays. Mais on n'a jamais dit que tout Allemand, tout Français, tout Belge en Afrique était mercenaire. Ou bien un des ressortissants de ce pays qui voulait venir en Afrique serait potentiellement un mercenaire. Alors pour eux, tout Africain, voire même des étudiants qui veulent venir parachever leurs études dans des facultés moins équipées, moins développées dans nos pays, mais on les traite comme des va-nu-pieds, des sans domicile fixe.
Officiellement, quand même, on nous dit que les étudiants et africains, notamment, qui veulent terminer leurs études en France, par exemple, sont les bienvenus. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, pour le coup, il y a eu une nouvelle politique pour favoriser les visas parce qu'on sait que c'est de la matière grise dont on a besoin en Europe. Mais on espère aussi que ces Africains formés retourneront après au pays pour faire bénéficier le pays de ce qu'ils auront appris. Ça a un peu changé quand même, ça, Josué, non?
Non, ça n'a pas du tout changé. Hein. Mais prenons les cas de la Grande-Bretagne et la formation des infirmières.
Alors rapidement, parce qu'on a encore beaucoup d'auditeurs à prendre au standard.
Oui. Vous voyez donc, voilà, c'est un double jeu au désavantage des pays africains. Un forum social mondial créé par les altermondialistes qui se tient lieu dans un pays qui se trouve aux antipodes de l'idéologie des altermondialistes et qui en plus, refuse de donner des visas d'entrée aux principaux acteurs de ce mouvement, parce que la participation des altermondialistes africains a toujours été appréciée partout. Et voilà que le Canada, avec M. Trudeau, dit non.
On comprend bien votre gêne, Josué. On rappelle quand même qu'il y a 120 nationalités qui participent en ce moment à ce forum social mondial, 5000 ONG. Mais effectivement, si les Africains ne sont pas les bienvenus et si les Sud-Américains eux-mêmes ne peuvent pas participer, ça peut poser un problème. On va rejoindre tout de suite Ina qui est à Niamey. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pendant qu'on discute à Montréal d'altermondialisme, vous voulez nous parler d'initiatives des citoyens, de cyber-initiatives exactement.
Exactement. Donc, je suis à Niamey. Je suis une résidente de cette ville depuis quelques années. J'ai vécu toute mon enfance. J'ai grandi à Niamey et j'ai dû quitter pour des raisons d'études. Et quand je suis rentrée en 2010, le constat, il est un peu amer sur le côté de la gestion en fait des ordures à Niamey. Et donc, depuis ce moment, nous n'avons pas arrêté avec les réseaux sociaux qui nous permettaient entre Nigériens de communiquer. Et nous dénonçons, nous n'avons pas cessé de dénoncer en fait l'état insalubre, l'état des routes dans la capitale. Et depuis quelques mois, exactement au mois d'avril, nous nous sommes retrouvés entre amis, donc entre internautes sur les réseaux sociaux. Et nous avons créé un groupe qui est dénommé Nigériens Cyber-Citoyens.
Alors je suis allé voir sur cette page Nigériens Cyber-Citoyens, c'est un peu, comment dirais-je, un mur de la honte. Hein. Vous publiez des photos de rues de Niamey qui sont littéralement submergées d'ordures. Alors, on comprend bien votre démarche. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez réussi à attirer l'attention des autorités?
Ah oui, alors pour cela, donc moi je n'appellerai pas ça le mur de la honte, mais plutôt le mur
de la prise de conscience.
Pour la prise de conscience, exactement, parce que nous sommes conscients que c'est pas joli et il faut savoir aussi que ce n'est pas uniquement à Niamey et toutes les capitales pratiquement ouest-africaines.
Il y a des internautes de Bamako qui ont posté des vidéos
exactement.
Également sur la page.
Sur Bamako, en Guinée et à Abidjan, on a vu les autorités qui ont fait une semaine de salubrité. Ils ont décrété une semaine de salubrité il y a cela du 3 au 9 août. Et c'est à saluer. Et donc,
mais est-ce que chez vous, à Niamey, ça a changé les choses? Est-ce que vous avez eu des contacts et on a dit...
Ça a changé. Alors, nous avons débuté nos... Alors, du coup de gueule sur les réseaux sociaux, nous sommes passés à l'action sur le terrain, qui consiste à aller donc sur les dépotoirs, et nous cotisons entre amis et nous faisons appel évidemment aux engins donc de la mairie et à d'autres cyber citoyens privés qui ont des engins.
Il y a quand même un internaute sur votre page, Ina, je me permets de vous couper, il y a un internaute qui se demande s'il ne faudrait pas une milice autoritaire pour lutter contre ce qu'il appelle les crimes environnementaux. Ça va loin quand même là.
Exactement. Et donc, nous allons, donc pour revenir, donc, nos actions, on a fait le buzz, hein, donc, sur les réseaux sociaux. Nous faisons des annonces, des actions qui vont se tenir. Et à une de nos dernières actions, à notre grande surprise, parce que nous avons aussi fait appel au maire et au ministre de la Salubrité. C'est un ministère qui existe depuis le deuxième gouvernement, depuis le mois de mars. Et donc, nous l'avons contacté pour qu'il vienne constater que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. Et ils sont venus, ils ont répondu présent à notre invitation. Et nous avons commencé. Et ensuite, au lendemain de cette action, il y a eu une réunion au niveau de la présidente qui a réuni autour de la table tous les acteurs intervenants, les autorités municipales.
Et des mesures ont été prises, Ina ? Des mesures ont été prises ?
Des mesures ont été prises. Donc, il y a trois jours après, le programme Niamey-Niala, donc c'est un commissariat, un haut commissariat qui a été créé pour pallier justement à ces problèmes de bordure, l'état des routes et autres. Et donc, ils ont lancé un programme
Pour améliorer les choses.
Un programme Niamey-Niala, exactement.
D'accord.
Donc, pour améliorer les choses, ils font des actions qui sont en train. Ça vient.
On suivra l'efficacité de ces actions en allant sur votre page Facebook Nigérien Cyber Citoyen. Merci beaucoup, Ina, de nous avoir appelé de Niamey. On va rejoindre Moussa. Bonjour, Moussa.
Oui, bonjour Nicolas. Merci de me donner la parole.
Mais bienvenue.
Bonjour, tuteur d'RFI.
On parlait de crimes environnementaux. Alors là, vous vous dites qu'on est un peu tous coupables, hein, puisque cette semaine, on a appris que la planète avait déjà consommé toutes les ressources naturelles qu'elle est capable de produire sur un an. On vit donc à crédit sur le dos de notre planète.
Alors tout à fait. Enfin, j'ai entendu par-ci et là les médias relayer ce phénomène, avec en plus une certaine légèreté. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangé, j'ai eu le sentiment que c'était assez indécent quand même. Compte tenu du fait qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui n'a pas accès à ces ressources-là. Une population qui même, en fait, on va dire, est propriétaire de ces ressources-là parce que ce sont des multinationales étrangères qui viennent les puiser. En fait, moi, ça m'a complètement... J'ai ressenti du dégoût quoi quand j'entendais ça, parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est quand même fou. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a dépensé en termes de ressources naturelles l'année, on pourrait peut-être plutôt se focaliser sur comment est-ce qu'on répartit les ressources équitablement entre chaque être humain. Voilà.
C'est vrai que
utopiste, voilà, mais
c'est vrai que dans l'étude, on nous dit que si le monde entier consommait comme la France, il faudrait trois planètes Terre, et que si on consommait comme les Américains, il en faudrait carrément cinq. Ce qui vous gêne donc, c'est cette déconnexion entre les pays du Nord qui usent et abusent des richesses de la planète et les pays du Sud laissés pour compte.
Absolument. Et je trouve que la croissance telle qu'on nous en parle en ce moment, parce que n'importe quel politicien qui veut accéder au pouvoir parle de croissance, etc. Mais à un moment, il faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas tous avoir un véhicule, on ne peut pas tous avoir le dernier frigo, la dernière télévision, on ne peut pas tous avoir des iPhones. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la planète ne peut pas supporter en fait ce mode de consommation.
Il faut faire des choix.
Et on court droit à la catastrophe, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a une notion qui a été développée par Pierre Rabhi, qui est un franco-algérien, un philosophe, donc il parlait de sobriété heureuse.
Absolument.
En fait, il défendait l'idée que,
d'une agriculture raisonnable et raisonnée. Merci beaucoup, Moussa. Alors, Maurice est assez d'accord avec vous. On ne va pas avoir le temps de le passer à l'antenne. Il dit que le véritable problème, c'est le gaspillage des biens et la consommation de biens inutiles. Si tout le monde consommait juste ce dont il a besoin, on pourrait mieux répartir les ressources. On va terminer très rapidement avec Alban, qui nous appelle de Bangui, pour parler de cette journée internationale des jeunes. Bonjour, Alban.
Oui, bonjour Nicolas, et bonjour à tous les acteurs de RFI.
Alors pour les jeunes, que faut-il faire ? Mettre l'accent sur l'éducation, vous nous dites.
Oui, je pense absolument Nicolas, c'est vraiment important pour qu'on puisse mettre l'accent sur l'éducation des jeunes. Vous voyez maintenant si les jeunes sont en proie à des rébellions, surtout dans la zone des régions des Grands Lacs, c'est parce que le niveau d'éducation, c'est pas ça. Donc il faut absolument qu'on puisse investir dans ce domaine afin de permettre à ces jeunes d'avoir une idée claire sur leur avenir. Et je pense que chez nous, en Afrique centrale, particulièrement en République centrafricaine, nous avons un problème d'accès. La jeunesse n'a pas accès aux nouvelles technologies d'information. Vous voyez, même dans les écoles primaires, secondaires et même à l'université, c'est difficile qu'on puisse trouver des infrastructures informatiques. C'est pour cela que je pense qu'il faut absolument qu'on puisse investir dans ce domaine, parce que dans certaines zones des régions du monde, par exemple, je prends l'exemple de la Chine, les nouvelles technologies sont très de